Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous avez encore le pouvoir de faire et de le faire savoir. On aime votre audace, on aime votre imagination, votre inventivité qui montre que même pendant les périodes de crise, eh bien oui, il se passe des choses. À mes côtés, pour accueillir ceux et celles qui font justement bouger la France, Elisabeth Assayag, bien sûr. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et notre coach qui nous accompagne toute la semaine, Riyad Boulanoir. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth et
salut
bonjour
Riyad.
À toutes et à tous.
Place tout de suite à nos bébés France Bouge, hein, ceux qui se lancent pendant la crise et qui seront peut-être, qui sait, tiens, les trophées France Bouge de demain. Je suis heureuse d'accueillir Sophie Billy-Hardwick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'entreprise Billy London, entreprise qui a un pied en France, l'autre en Angleterre avec votre cofondatrice. Et vous venez de lancer des collants biodégradables. Alors, c'est vrai que c'est assez bluffant. On attend évidemment d'en savoir plus. Et vous avez, bien sûr, 1 minute 30. C'est parti.
Merci Raphaël. Alors, pourquoi des collants biodégradables? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, un collant usagé ne peut être recyclé en un nouveau. Et ça, c'est un problème, parce que chaque année, ce sont 2 milliards de collants qui sont produits, portés une à deux fois et jetés à la poubelle. Et il faut savoir que ce collant qui est jeté à la poubelle va mettre entre 40 et 100 ans à se décomposer. L'idée est donc partie de ce constat affolant et de ma propre frustration en tant que grande consommatrice de collants. Et donc, avec ma cofondatrice Marie Bouillet, après plus d'un an de recherche, nous avons créé la marque Billy London, B-I-L-L-I London, qui donc sont des collants qui se biodégradent en moins de 5 ans. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, une fois que le collant arrive en déchetterie, des micro-organismes vont venir grignoter le collant et le faire disparaître en un temps record. C'est donc la formule chimique de nos fils qui a été modifiée, mais sans compromettre leur qualité supérieure. Et ça, c'est très important, parce qu'en dehors de ce souci environnemental, notre deuxième combat est de faire en sorte que le collant ne soit plus considéré comme un achat de nécessité et à usage presque unique, mais qu'il devienne un produit désiré. C'est pour ça que la recherche du design, en plus de la technologie, a été au cœur de notre processus, afin de créer un collant confortable, doux, qui ne gratte pas, ne glisse pas, ne coupe pas le ventre, etc. C'est pourquoi la sensualité, l'élégance et le confort sont au cœur des designs Billy London. Nous avons donc créé le collant parfait, l'allié indispensable de votre garde-robe et de notre planète.
Voilà pour le pitch. On va tout de suite demander à Riyad ce qu'il en pense, notre coach de cette semaine, hein, dans La France bouge. Riyad, collant biodégradable.
Ouais, alors je vous avouerai, Raphaël, que des collants, j'en porte pas beaucoup.
Ah bon?
Néanmoins, j'en ai côtoyé beaucoup et c'est vrai que c'est surprenant. Je me suis toujours quand même posé la question, pourquoi ça avait un usage aussi unique, quoi. Une à deux fois c'est porté, puis ensuite ça se file.
Oui.
Alors je me rappelle de toutes les astuces de mes sœurs avec du vernis, etc. Mais il est filé, de toute façon il faut le jeter. Et ma maman le mettait pour cirer les chaussures. Je me rappelle, c'était une façon de le recycler, quoi. C'était un... Ben non, c'est très malin, c'est responsable, c'est écologique, c'est sympa, c'est frais. J'ai vu qu'ils ont fait une campagne Ulule, qu'ils ont dépassé d'ailleurs leurs objectifs. Donc bravo à vous. Ça résonne bien dans l'air du temps. Moi, je pense que ça s'encourage complètement. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, c'est une pollution à laquelle je participe pas, d'une part, mais surtout, j'étais pas conscient. Et effectivement, c'est très bien d'avoir fait quelque chose qui, en plus, est écologique. Ça coûte combien?
Alors, le collant coûte 27 euros.
Ok, donc on reste en...
Ah oui, quand même. Quoi.
Donc, c'est un investissement, mais ça s'explique. Il tient plus longtemps, il est plus résistant.
Tout à fait.
Et il ne pollue pas la planète.
Il ne pollue pas la planète, effectivement.
Et... Elisabeth. Et...
Est-ce qu'il est agréable à porter? Est-ce qu'il est beau? Parce que c'est bien qu'il ne pollue pas la planète, mais un collant, c'est aussi pour avoir de jolies jambes.
Exactement. C'est pour ça que j'expliquais que le design a été très très important au-delà de la technologie que l'on a développée. Nous avons passé énormément de temps à développer un design qui fait que le collant est extrêmement confortable. J'irais jusqu'à dire que c'est réellement une caresse pour vos jambes. On a supprimé les coutures entre les jambes, donc il n'y a plus de coutures. On a une ceinture qui tombe parfaitement sur les hanches, quelle que soit votre morphologie. Le collant est extrêmement doux et c'est une révolution pour le fait qu'il n'y ait plus de couture réellement, et cette ceinture voilà, et puis c'est, comme vous l'avez vu, un prix haut de gamme,
oui.
Parce que nos fils sont haut de gamme, la qualité, les machines utilisées, la technique derrière est haut de gamme.
Alors je disais tout à l'heure, un pied à Londres, un pied en France, c'est compliqué de fabriquer un collant aujourd'hui en complètement en France.
Ouais, c'est pas possible. On a voulu avoir ce stamp made in France, puisque Marie Aimant étant française. Et en fait, en faisant des recherches, on s'est très rapidement rendu compte que toute l'expertise est en Italie. L'Italie est vraiment le berceau des collants. Et cette technologie que l'on a pour faire ce collant biodégradable est en Italie. Donc on n'abandonne pas, hein. On espère dans des projets futurs d'ailleurs pouvoir développer d'autres produits en dehors des collants.
Vous êtes en contact avec des magnaneries parce que c'est aussi en train de se relancer.
Les collants en France ?
Oui.
Pas cette technologie qu'on utilise. Il reste, je crois, seulement une poignée de main d'entreprises qui fabriquent des collants en France et ce fut impossible de faire ce qu'on fait. C'est vraiment une technologie innovante et c'est vraiment en Italie pour le moment.
Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour arriver à vous développer, vous démarrer, hein, on en est vraiment au balbutiement pour l'instant, on a vu que c'était très bien parti. Comment est-ce que vous envisagez les choses? Être en grande distribution, être uniquement sur du e-commerce, comment est-ce que vous allez fonctionner?
Alors pour le moment, donc on est disponible en précommande sur Ulule, donc en ligne jusqu'au 14 juin. On va pouvoir envoyer les premières commandes dès septembre 2020. Et après Ulule, les collants seront disponibles sur notre site internet, donc en e-commerce. Et on espère pouvoir réellement se développer dans l'Europe entière. C'est pour ça que être présent en ligne nous permet d'être accessible au plus grand nombre et ça nous permet aussi de réellement innover sur toute l'expérience d'achat du collant. Et ça c'est très important pour nous de revoir cette expérience. C'est pour ça que l'on va proposer un abonnement bimestriel. Donc tous les deux mois on va envoyer deux collants, un collant uni et un collant à motif qui sera en édition limitée, ce collant à motif présent dans nos boîtes uniquement.
Riyad, un conseil peut-être pour justement aider au développement de Billy London?
Ben, je pense que là, il faut qu'elles renforcent à fond leur communication. Ça va être indispensable parce que les clients viendront pas à elles, c'est à elles d'aller chercher les clients. Je pense qu'il faut pas négliger les distributions physiques dans les points où les gens vont parce qu'il y a besoin de le montrer, il y a peut-être besoin de le toucher avant d'avoir vraiment l'acte d'achat. C'est vrai que j'ai été sur votre site Billy London, là c'est très joli, les photos donnent envie. Mais je pense que néanmoins, si on veut convertir en achat, c'est bien de le voir pour au moins le bouche à oreille qui sera juste derrière en disant bah, je l'ai vu, je l'ai déjà essayé, donc je peux le recommander. Voilà, c'est ça que je conseillerais.
En tout cas, bravo pour ce défi relevé parce qu'on est quand même pendant la crise et vous vous êtes lancé en ce moment, donc il fallait le faire. Merci d'avoir
osé,
été.
Hein.
Ouais, exactement. Il fallait essayer.
Bravo, il faut de l'audace.
Exactement.
De l'audace,
merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à nous soutenir encore billy-london.com. Merci beaucoup.
Je crois que c'est fait.
Oui, exactement. Je crois que c'est fait aussi. Merci d'avoir été avec nous. 13h15.
Europe 1.
Pour respecter la distanciation sociale et garder la confidentialité des échanges, il y a, vous allez le voir, de nouveaux outils comme un casque invisible qui vous permet de communiquer avec votre interlocuteur sans que personne d'autre n'entende. C'est la solution qu'on va découvrir avec Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h18, diffuser du son dans un espace ouvert, c'est ce que propose votre solution du jour, Elisabeth. C'est l'entreprise Acoustic Art qui, elle aussi, s'est adaptée à la crise. Comment ? Eh bien, grâce à un hygiaphone directionnel.
Oui, Acoustic Art, ça existe depuis 10 ans. Certains peut-être connaissent cette entreprise pour ses enceintes connectées. Leurs clients, à la base, ben, ça tourne surtout autour de l'événementiel. Mais le coronavirus est passé par là, il n'y a plus d'événements avec du monde, avec de la population. Et là, encore une fois, une entreprise s'est adaptée. Depuis le début de la crise, Acoustic Art s'est lancée dans des hygiaphones directionnels. Je rappelle, hein, l'hygiaphone, c'est à la base une barrière qui sépare le public d'un travailleur. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en voyait beaucoup à la poste il y a une dizaine d'années. Là, c'est un hygiaphone directionnel avec du son, exactement comme dans une bulle, un son ciblé. Et on imagine que ça va être très demandé, notamment dans les EHPAD, dans les hôpitaux ou encore dans les cliniques, compte tenu du respect de la distanciation sociale qui risque de perdurer. Donc il s'agit d'une enceinte qui peut diffuser le son comme un faisceau de lumière quand il se propage dans l'espace, hein, ce qu'on appelle du son ciblé, et ça permet de communiquer de façon totalement confidentielle tout en respectant la distanciation sociale. Bonjour Hélène Cadouche.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Acoustic Art. Comment vous avez mis cela au point, je crois même en à peine quelques jours, hein?
Oui, en fait, donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, on a développé cette technologie qui est une technologie assez complexe et qui permet de contrôler la diffusion du son dans l'espace, comme vous l'avez bien expliqué, en créant une bulle de son. Pour, donc quand une personne rentre dans cette bulle, elle entend le son. Quand elle en sort, elle n'entend plus rien. Donc quand il y a plusieurs bulles qui sont côte à côte, et ben chaque personne entend le contenu sonore dans ces bulles-là, dans sa bulle à lui, et celui d'à côté ne l'entend pas. Quand la crise est arrivée, nous, on a pas mal de clients qui ont annulé leurs commandes, parce qu'on travaille pour les secteurs des espaces qui accueillent du public, donc comme les transports, par exemple, qui ont été coupés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou, comme vous l'avez rappelé, dans l'événementiel, ou pour les musées. Donc face à ce déficit de commandes qui est arrivé de façon extrêmement radicale, on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit déjà première chose, comment est-ce qu'on peut rendre notre technologie la plus utile dans le cadre de cette crise. Exactement. Et deuxième chose, comment est-ce qu'on peut l'adapter pour qu'elle réponde à ses besoins.
Alors, c'est destiné à qui là? Vous avez déjà vous avez fait des tests qui ont été concluants. Comment ça se passe en ce moment, au moment où nous parlons? Comment vous utilisez votre solution?
On a l'idée la plus intéressante et la plus utile qui nous est venue à l'esprit, c'est que compte tenu des mesures barrières qui, comme leur nom l'indique, sont une barrière aussi à la communication. Donc on pense à la distance qui est imposée entre des personnes dans un lieu public, qui évidemment nuit à la communication, les barrières physiques telles que les hygiaphones en flexiglas qui coupent le son, et sur un dernier plan, les masques qui créent aussi de gros problèmes de communication.
Alors ça donne quoi? Ça donne quoi dans les tests que vous avez effectués? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Oui, tout à fait.
Si je suis dans une pharmacie, par exemple, je me mets à un endroit particulier pour pouvoir parler au pharmacien qui est de l'autre côté de la banque?
Exactement. Le pharmacien est équipé d'un micro. De l'autre côté, il y a un micro qui capte le son du client qui va rentrer dans un espace déterminé. Donc, il va y avoir, par exemple, un marquage au sol. Donc, le client rentre, se colle à cette ligne-là. Et lorsqu'il parle, le micro va venir capter le son de sa voix directement, la transmettre au pharmacien qui va l'entendre à son tour. Le pharmacien va lui répondre et cette réponse sera envoyée via cette bulle de son. Et donc, le client aura l'impression que le pharmacien lui parle à quelques centimètres de son oreille, donc avec une très bonne intelligibilité, un effet de proximité, justement.
Riyad ?
Ouais, non, moi je trouve ça super. J'aime bien le côté tech, évidemment, parce que c'est vrai que sur l'acoustique, depuis le haut-parleur, on n'a pas inventé grand-chose. On s'est un peu contraint avec des casques pour avoir une expérience, et là le fait de mettre la tech au profit, alors c'est vraiment de la tech complexe, hein, parce que pour jouer sur l'acoustique et juste ne pas déborder et juste envoyer ce faisceau de son, et puis c'est très malin quoi, c'est un vrai rebond qu'ils ont fait, parce que effectivement ça montre toute son utilité. On peut être à 3 mètres et entendre comme si on était à 3 cm quoi. Donc c'est parfait, ça répond parfaitement aux besoins et ils ont la technologie. Donc,
La personne qui est derrière moi dans la file ne va pas entendre ce que je dis.
C'est exactement ça, puisque la personne qui est dans sa bulle a le son, la personne qui est derrière, peut-être à 1m20, n'entendra rien du tout. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté, évidemment, dans l'utilisation de l'enceinte dans son premier principe.
Alors là, avec ce principe adapté à la crise, où ont lieu les tests? Là, vous avez surtout vendu vos hygiaphones directionnels à qui? À des EHPAD, à des cliniques, à qui?
Alors sont là, vos clients? Justement, les premières installations qui vont intervenir dans les 2 semaines ou 3 semaines à venir, on a des accueils d'urgence en hôpitaux.
Oui.
Parce que forcément, il y a beaucoup de barrières physiques, les gens qui arrivent sont malades, donc ils ont du mal à s'exprimer de façon extrêmement distincte pour porter leur voix. Et donc, souvent, les soignants peuvent être amenés justement à briser la mesure barrière parce qu'ils ont besoin de s'approcher pour écouter.
Et mieux entendre, bien sûr.
Exactement. De toute façon, tout le monde connaît ça. C'est-à-dire que quand on a besoin de communiquer, parfois on est capable de faire n'importe quoi, y compris de baisser son masque. Enfin, on le voit toute la journée dans les différents commerces aussi. Donc là, c'est un peu une solution contre justement cette volonté humaine de vouloir communiquer et donc de briser les mesures barrières. Donc on a les accueils d'urgence en hôpitaux. On a également pour les EHPAD, il y a un gros, il y a une grosse demande parce que ils ont des salles de visite. Et dans ces salles de visite, notamment les personnes âgées sont souvent déficientes auditives, et donc avec un hygiaphone qui les sépare du visiteur, clairement c'est pas possible d'entendre le son, et ils ont besoin aussi d'une confidentialité parce que s'ils mettent des haut-parleurs partout, les salles de visite, ça devient un brouhaha complet.
Est-ce qu'il a un nom, cet hygiaphone ?
Alors pour l'instant, on l'appelle l'interphone directionnel.
Et on va falloir lui trouver quelque chose d'un peu plus sexy.
Oui, un truc plus vendeur quand même.
Si, effectivement. Parce que là, ça fait encore 13 années 70, mais on est dessus.
Ah, le casque invisible, ça va bien. C'est Raphaël. Hein. Je reprends l'expression. Le casque invisible, c'est.
Moi, j'aurais dit la bulle invisible.
Ah, la bulle, c'est bien aussi, oui. Ouais,
et ça coûte combien sinon ?
Oui, c'est ça.
Alors, le prix, il faut nous contacter et c'est sur demande.
Ah, donc ça dépend de l'espace peut-être. Bon. De l'espace
aussi. Oui, c'est
aussi
ça. Les installations sont assez différentes. Il y a différents types d'installations.
Mais un ordre de grandeur, non ?
Non, c'est vraiment sur demande. Bon.
Non, mais ça démarre à combien ? Juste pour qu'on puisse un petit peu avoir un prix. Ça démarre à combien ?
Ça démarre à plusieurs centaines d'euros et ça monte à plusieurs milliers d'euros.
Ok, donc effectivement la fourchette est assez large, ça dépend effectivement du nombre de points d'installation, de points de connexion que vous avez à mettre en œuvre au sein d'un même établissement. Bravo en tout cas, alors on verra si vous l'appelez la bulle ou pas, on va suivre.
C'est pas mal,
on demandera peut-être des intérêts.
Le bullophone peut-être.
Bullophone, oui. Ouais.
Ça fait chewing-gum quand même.
Voilà.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct pour nous présenter cette solution.
Europe 1.
On reste ensemble. L'immobilier a dû se réinventer lui aussi pendant la crise. Comment le secteur redémarre-t-il et comment imagine-t-il la suite ? C'est le dossier de La France Bouge. A tout de suite.
Europe 1. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
13h28, depuis la mi-mars, tous les secteurs, ou presque, hein, vous le savez, sont à l'arrêt ou au ralenti. Et l'immobilier, qui était très en forme l'année dernière, n'échappe pas à la règle. Certaines enseignes ont vu la fréquentation de leur site baisser de moitié. Quant aux transactions qui se sont poursuivies, il n'y en a pas eu plus de 10 à 20% de ce qui était prévu. Il a donc fallu imaginer en urgence la suite. Nous sommes en ligne avec Jean-Marc Torollion. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la FNAIM. Je parlais d'inventer la suite, d'inventer le présent. Ça veut dire signature virtuelle, vente de logements à distance, visio. Il a fallu quasiment tout passer en digital.
Il a fallu tout passer en digital, même si nous avions déjà ce séquençage avant le confinement. Mais la différence, c'est que nous l'avons finalement industrialisé selon différents outils. Nous avons mis à la disposition de tous nos adhérents une véritable plateforme d'assistance à la signature électronique de leurs contrats, 120 contrats avec une assistance automatisée juridique, leur permettant ainsi à distance de faire signer leur contrat, leur compromis de vente, leur promesse de vente, leur beau, avec la lettre commande électronique qui est parfois utilisée pour des questions réglementaires. Et puis on a naturellement développé la visite virtuelle parce qu'au fond, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Nous devons limiter les visites tout en contentant naturellement nos acquéreurs et nos candidats locataires. Tout l'enjeu est donc de développer une contextualisation de la visite, permettant ainsi de faire des pré-choix de plus en plus précis pour l'ensemble de nos clients.
Alors restez avec nous, je me tourne vers vous Elisabeth, on en est où globalement sur le marché de l'immobilier en ce moment ?
Alors, pendant le confinement et post-confinement, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, c'est marqué par une baisse des transactions. C'est homogène sur tout le territoire. Et c'est un peu ce qu'on appelle un trou d'air hein, dans le jargon, qui va sûrement s'accentuer parce que en ce moment, cette période que nous vivons, normalement, elle est active hein, chaque année. C'est pour des raisons, c'est saisonnier. Hein, c'est maintenant qu'il y a beaucoup de transactions. Les déménagements commencent au mois de mai. Ça continue en juin, juillet. Et donc là, avec cette tendance plus faible, il va y avoir une tendance aussi plus faible en volume. Volume de transactions et d'ailleurs ça a été corroboré par une note de conjoncture des notaires de France le mois dernier. Ce qui risque de tout faire ralentir aussi, c'est le manque de confiance pour s'engager dans un achat immobilier et c'est ce qui va influencer plus ou moins consciemment les acquéreurs. Ils vont peut-être reporter leur intention d'achat parce qu'on sait l'investissement immobilier c'est aussi un engagement qui est aussi psychologique. Au-delà d'être financier, c'est psychologique parce qu'on pense à très très loin.
Oui, on voit qu'il y a des freins. Jean-Marc Torollion. Vous vous étiez d'ailleurs inquiété, hein, Elisabeth en parlait, du gel des actes notariés. Ce qui était possible avec certains ne l'était pas avec tous. Là aussi, les choses se sont accélérées.
Alors les choses se sont véritablement accélérées depuis le 11 mai. J'avoue que nous avons été effectivement, il n'y a pas que nous, la Fédération des promoteurs s'en est inquiétée. Nous avions été surpris d'une attitude du notariat qui du jour au lendemain ne donnait plus de nouvelles. Un décret du 3 avril est venu permettre la dématérialisation totale de ces actes. Décret dont nous souhaitons d'ailleurs la pérennité. Et véritablement, le notariat a repris son activité le 11 mai. Il était temps parce que des acquéreurs et des vendeurs attendaient la signature de leurs actes. Nous avions des flux d'honoraires indispensables pour nos entreprises. Et puis, il y a également des droits de mutation pour les collectivités territoriales. Donc, c'était véritablement une profession qui était au nœud de beaucoup de flux. Ça a repris maintenant, mais nous avons eu là aussi un gros trou d'air.
Avec une première solution, Elisabeth, je crois, par le Conseil supérieur du notariat, c'est ça, qui est des notaires ?
Oui, quai des notaires, c'est l'intégration de la signature qualifiée. Hein, c'est une plateforme qui permet aux notaires la réception de leurs actes notariés à distance. Hein, c'est une forme de label qui permet donc de recevoir des actes authentiques à distance avec la possibilité de signer une transaction immobilière depuis chez soi. Et d'ailleurs, les notaires espèrent que ce type de signature puisse perdurer bien au-delà de la simple période d'état d'urgence sanitaire.
Riyad Boulanoir, notre coach qui va intervenir, parce que c'est vrai que c'est un des secteurs qui a mis le plus de temps finalement, le secteur de l'immobilier, à se digitaliser.
Ouais, mais c'est le côté positif des crises, c'est qu'elles précipitent l'innovation. Voilà, il n'y a pas le choix. Je ne suis pas sûr que la dématérialisation avec les notaires, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, ça aurait pris sûrement 5 ans. Et puis
ouais,
là, subitement, maintenant, ils en veulent l'adoption et ça y est, ça s'est accéléré, quoi. Donc, c'est un nouveau... C'est un virage précipité, mais en tout cas, c'est un virage utile, finalement.
C'est comme pour le télétravail.
Vous avez senti ce coup d'accélérateur, Jean-Marc Torollion?
Ah oui, on a senti ce coup d'accélérateur, mais en même temps, seulement 40% des études notariées étaient équipées du système dont vous parlez, et donc il est urgent qu'ils s'équipent en totalité. Il y a un autre virage qui est fondamental et qu'on va prendre, c'est celui de la vidéo assemblée générale pour nos 170 000 réunions de copropriété que nous avons en retard.
Exactement.
Nous avons une ordonnance qui est parue ce matin,
avril,
qui permet aux syndics de choisir cette possibilité-là, et là aussi, on va vers véritablement une révolution.
Donc là, vous nous dites, en exclusivité sur Europe 1, que les réunions de copropriété maintenant ne se feront plus nécessairement en présentiel.
Je vous dis qu'effectivement aujourd'hui, pour une période de 8 mois, mais nous pensons que, comme toute chose, ça va se pérenniser, le syndic va pouvoir choisir la façon dont il va faire ses assemblées générales. Et pour la première fois en France, ces assemblées générales auront lieu sans présence physique des copropriétaires, entièrement en vidéo assemblée générale, ou avec un vote par correspondance, ou en panachant tous les systèmes. Et ce choix va dépendre du syndic. C'est une solution donc très originale que nous allons mettre en œuvre et qui révolutionne malgré tout la façon dont on va administrer la prise de décision en copropriété. Effectivement, vous êtes les premiers, vos auditeurs sont les premiers à l'entendre puisque ça date de ce matin.
Effectivement, merci de nous avoir réservé cette primeur. Vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on aille rejoindre Nicolas Guay qui nous attend, qui est le cofondateur de Wellmo. Bonjour.
Bonjour.
Votre business, vous, était déjà basé sur l'Internet, la visite virtuelle, la signature à distance. Néanmoins, cette période de confinement vous a, je crois, poussé à aller encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire ?
Effectivement, ça a mis la lumière sur notre modèle. On utilisait déjà beaucoup d'outils digitaux pré-Covid avec la visite virtuelle qui, en notre sens, est indispensable. D'ailleurs, avec les plans, souvent quand vous regardez des annonces, il n'y a que les photos et encore les photos ne sont pas forcément de bonne qualité. Alors que c'est la première impression qu'on a avant de visiter le bien. Pendant le confinement, on a clairement eu un regain d'activité et on a effectué des visites en visioconférence en plus des visites virtuelles.
Ah oui? Donc, le fait d'être une agence en ligne, ça vous a aidé quand même à continuer à faire des transactions, peut-être plus que d'autres qui étaient en agence physique et qui n'avaient pas encore pris ce virage ?
Alors effectivement, comme vous le disiez précédemment, le secteur de l'immobilier est l'un des secteurs d'activité qui a mis le plus de temps à se digitaliser, et encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de process à automatiser, digitaliser, et pas uniquement dans la transaction immobilière. Donc effectivement, oui, on a eu un regain d'activité, une forte croissance dès le 6 avril, où on a eu autant de vendeurs, soit qui avaient des projets de vente post-confinement, ou bien qui se retrouvaient, on va dire, devant le pied de porte d'une agence immobilière physique qui est, donc était fermée, qui n'avait pas de solution et donc se sont rabattus vers notre modèle pour avoir des informations sur notre process, comment nous fonctionnons. Et on a eu la grande surprise aussi d'acheteurs, de visiteurs qui se sont manifestés, qui souhaitaient acheter, parce qu'en effet, comme vous le disiez précédemment, c'est une très forte et une très bonne saisonnalité, le mois d'avril, mai, juin. Et on l'a ressenti d'un point de vue des visiteurs, acheteurs. Donc nous avons mis en place cette visite en visioconférence et on a recensé plus de 500 projets de vente en l'espace de 3 semaines.
Ouais, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez eu tellement de demandes pendant le confinement qu'aujourd'hui vous cherchez à embaucher 200 agents à travers la France. C'est important hein, parce que ça va concerner, c'est de l'emploi.
Effectivement, on recherche 200 agents immobiliers sur Paris, sa région, mais également sur les principales villes de France, parce que en étant en ligne, on est présent sur vraiment l'ensemble du territoire national. Et ce soir, d'ailleurs, à 18h, je vous l'annonce, on fait un webinar en live. Il suffit d'aller sur LinkedIn ou notre page Facebook, ou donc Welmo, W-E-L-M-O. Il suffit de vous enregistrer sur le lien et on vous présentera en fait le métier d'agent immobilier de par Welmo.
Ouais, c'est important parce qu'effectivement, on sait que cette crise va laisser des traces. Et voilà, c'est 200 personnes qui peuvent peut-être aujourd'hui trouver du travail. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 dans La France Bouge. 13h38.
Europe 1.
Comment les particuliers se sont-ils débrouillés pour vendre ou pour louer? On va essayer de le savoir avec notre prochaine invitée. A tout de suite.
Europe 1. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir éviter de payer un intermédiaire, à tenter de vendre votre bien par vous-même et à mettre une petite annonce, tiens, par exemple, sur le site de PAP. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, présidente de PAP. Avec le déconfinement, justement, vous avez eu l'idée de mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Vous aussi, vous vous êtes davantage tournée vers le numérique ?
Alors on s'était tourné sur le numérique déjà il y a un petit moment, puisque ça fait plus d'un an qu'on propose aux particuliers qui veulent vendre en direct d'avoir des services comme une visite virtuelle en 3D. Donc on avait déjà ces solutions-là. Là, ce qu'on constate, c'est que c'est vrai qu'ils sont plus nombreux à y avoir recours. Et puis il y a des petites nouveautés dans les pratiques. L'une que je trouve significative, c'est les appels vidéo.
Oui.
Puisqu'en fait, pendant le confinement, de nombreux particuliers qui étaient chez eux, donc ils pouvaient faire visiter leur logement en appel vidéo, se sont mis à le faire. Nous, on a 3 propriétaires sur 10 qui ont contacté leur acquéreur ou leur locataire avec WhatsApp ou Skype pour leur montrer leur logement pendant le confinement.
Oui, c'est pour ça que je parlais de nouveautés, parce qu'effectivement, on avait l'habitude de l'appartement vide en visite virtuelle. Là, on est presque accueilli par le propriétaire qui vous l'apporte et qui, par le biais d'un téléphone, va nous faire visiter son appartement.
Non seulement il fait visiter son appartement, mais l'autre point qui est intéressant pour lui, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont nombreux à y avoir eu recours, c'est qu'il rencontre son interlocuteur.
Oui.
La visite virtuelle, vraiment, c'est très bien, je le précise quand même, c'est quelque chose qui permet de diminuer largement le nombre de visites. Nous, on a fait une moyenne, quand vous avez une visite virtuelle dans votre annonce, vous n'avez que 2 visites à faire pour vendre en moyenne. Donc c'est quand même très efficace pour bien cibler ses acheteurs. L'inconvénient, c'est que vous le rencontrez pas, vous. Puisque la visite virtuelle, elle est dans l'annonce, etc. Les appels vidéo, ça leur permet de se rencontrer. Et ça, c'est quand même un propriétaire. Il aime bien rencontrer son acheteur ou son locataire pour quand même prendre connaissance. Donc c'est pour ça que cette solution a été largement démocratisée pendant le confinement. Et ça continue de l'être.
Vous avez donc lancé ce contact direct avec le propriétaire. Vous dites, c'est aussi un aspect qui permet de filtrer le réel intérêt pour un bien ?
Oui, parce qu'en fait, alors la visite virtuelle, enfin toutes les solutions à distance ne visent pas à remplacer complètement la visite réelle d'un logement. Il faut visiter en vrai un logement avant de faire une offre d'achat notamment. Mais ça permet de rencontrer le moins possible de personnes, puisqu'en fait, vous allez filtrer en amont l'intérêt de l'acheteur. Est-ce qu'il a bien compris comment s'agençait votre logement? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il cherche? Et vous allez éviter les visites inutiles. C'est l'intérêt majeur de ces solutions. Elles sont adaptées au coronavirus. Mais au-delà de ça, c'est un gain de temps, c'est super efficace. Donc moi, c'est pour ça que je pense que c'est des solutions qui vont se pérenniser. Parce qu'au final, une fois qu'on l'a fait, on a envie de le refaire.
D'ailleurs, Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre solution de visite virtuelle collaborative.
Oui, collaborative, ça en vaut la peine. Hein. C'est la Digital Building Factory qui met en place des visites virtuelles pour. Ça s'adresse aux promoteurs immobiliers parce que ça devient vraiment un outil d'aide à la vente. Et là, c'est plus que jamais compte tenu de la crise que nous traversons. Donc, c'est un outil que propose la Digital Building Factory qui permet de présenter les constructions des produits. Ils peuvent les tester. Des solutions. Ils proposent des solutions de visite virtuelle. Évidemment basé sur des photos à 360, mais là aussi de réaliser une visite, personnaliser un bien, conclure la vente sans avoir besoin de se déplacer. Ce sont toutes ces solutions que propose la Digital Building Factory. C'est une start-up du collectif de la Villa Bonne Nouvelle du groupe Orange.
Riyad Bolanoir, notre coach.
Ah bah moi je revois encore les côtés positifs de la crise, hein. C'est que c'est une vraie réduction flagrante de la fracture numérique. Voilà, maintenant ça rentre dans les mœurs, on l'a vu avec les notaires, les visites virtuelles, et puis voilà, il y a des nouveaux modes d'usage, des nouveaux modes de consommation, mais en tout cas on a utilisé la technologie au profit de tous, quoi. Ouais. Et pour notre sécurité, donc c'est parfait.
Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, vous restez avec nous, on va retrouver Pierre Chapon qui est président et cofondateur de Préto. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre start-up est spécialisée dans les crédits immobiliers depuis 3 ans. Le problème, c'est que les prêts, aujourd'hui, si la crise dure, les banques vont commencer à faire remonter les taux d'intérêt. Ça veut dire que l'accès au crédit va devenir plus difficile ?
Alors effectivement, on observe déjà une remontée des taux d'intérêt depuis le début de la crise. Évidemment, on peut pas savoir si ça va vraiment se prolonger. Ça dépend des faits macroéconomiques que j'aurais bien du mal à prévoir de manière robuste.
Nous aussi.
Mais en effet, la remontée des taux exclut déjà une partie des emprunteurs, sachant que on a déjà connu au début de l'année, au-delà des taux, une restriction des critères d'octroi des banques en limitant notamment le taux d'endettement, ce qui a déjà posé des problèmes pour certains dossiers.
Oui, donc votre solution Préto vient donner un coup de main justement aux acquéreurs qui ont besoin de liquidité, qui ont besoin d'avoir de l'argent, et vous allez faire en sorte finalement de trouver l'offre la plus appropriée, de les aider à la trouver en tout cas.
Tout à fait. Nous, on a depuis le départ, depuis 3 ans, mis en place un service à distance qui permet de sans bouger de chez soi, de comparer toutes les offres bancaires et de sélectionner la plus adaptée, la plus compétitive pour soi, avec l'aide d'un expert qui à distance accompagne chaque client. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans et pendant la période du confinement et la période actuelle qui s'annonce, on va dire, de prudence sanitaire, notre service est particulièrement adapté.
Oui, dans une situation de crise comme celle qu'on traverse, effectivement, on peut avoir des doutes quand on est un acheteur potentiel, hein, d'où l'intérêt, effectivement, de se faire aider.
Tout à fait. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une bonne partie des acheteurs qui sont toujours là. On a fait une étude récemment qu'on va publier tout bientôt qui montre que plus de 60% des acheteurs potentiels déclarent ne pas avoir remis en cause du tout leur projet d'achat. Donc ils sont là. Par contre, ils sont confrontés à la réalité un petit peu logistique de la transaction immobilière qui, vous en avez parlé sur tous les aspects, demandait initialement pas mal de rendez-vous physique, des courriers, des choses comme ça. Et là, maintenant, sont en attente de solutions qui évitent les rendez-vous, les déplacements. Et en tout cas, pour ce qui est du prêt immobilier, nous, c'est ce qu'on propose et c'est particulièrement adapté à la situation.
Riyad, le coach.
Oui, toujours d'un point de vue techno. Effectivement, c'est l'avantage des nouveaux arrivants. Ils héritent pas d'un historique, hein, donc le virage il est moins dur à prendre. Ils étaient déjà dans le digital, redigitaliser ou massifier le digital, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Donc c'est plus facile. Sur l'aspect comparateur, effectivement, les produits financiers et en particulier les crédits immobiliers, j'en sais quelque chose. Il y a une jungle entre toutes les différentes options, mm-hmm. les différentes assurances, etc. Effectivement, avoir un concept conseils complètement personnalisés et si possible juste, ouais, me paraît complètement adapté quoi, sur cette jungle de produits financiers.
Puisqu'on est en train de parler des prix, justement, Elisabeth, ça donne quoi au niveau des prix?
Mais avec les transactions qui ralentissent, et là on vient de, vous venez de nous le dire, hein, les taux commencent petit à petit à augmenter, seuls les vendeurs les plus pressés ou avec des contraintes personnelles pourraient être amenés à accepter des offres en dessous de leurs attentes. Tout ça pourrait se traduire d'ici la fin 2020 par un recul modéré des prix, une baisse sévère du volume des transactions. Ça, ce sont des estimations de Meilleurs Agents, qui est une plateforme d'estimation des prix immobiliers. Et l'équilibre entre l'offre et la demande par rapport à l'avant-crise empêchera peut-être aux acheteurs d'imposer des rabais importants.
Et puis, il y a aussi beaucoup de citadins qui sont partis à la campagne. On va voir si c'était un phénomène ponctuel ou pas.
Ouais, parce que là, la plénitude de l'INSEE, il y a eu plus de 450 000 Parisiens qui ont quitté la capitale pendant le confinement. Et ça pourrait être aussi une nouvelle façon de vivre, hein, parce qu'entre-temps, le télétravail s'est développé, hein, en se réfugiant au vert. Et peut-être que les petites et moyennes villes vont être les grandes gagnantes de cette crise. D'ailleurs, d'après une enquête récente de se loger à 20 minutes en voiture de Paris. Ils ont désigné la ville de Choisy-le-Roi. Ils ont vu que les maisons là-bas sont largement plus recherchées qu'elles ne l'étaient avant la crise.
Voilà, ça va peut-être donner des idées à quelques-uns. Merci d'avoir été avec nous pour ce dossier consacré à l'immobilier qui se réinvente. La France Bouge continue. 13h49.
Europe 1.
Vous êtes artisan, vous êtes commerçant, patron de TPE ou de PME, vous avez besoin d'un coup de main, vous êtes au bon endroit. À tout de suite.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h52, si la crise a laissé des questions en suspens, si vous êtes en difficulté passagère, que vous ne savez pas à quelle porte taper pour avoir des réponses à vos questions, eh bien écrivez-nous e1-lafrancebouge@europe1.fr et nous essaierons de vous aider avec Nathalie Carré qui est à nos côtés pour le dossier, pour essayer de creuser vos dossiers, chargée de mission entrepreneuriat CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Nous sommes aujourd'hui, Nathalie, avec Marie, Marie Stoclet. Bonjour Marie.
Bonjour Raphaël.
Fondatrice de la Meringuée dans le 17e à Paris. Vos boutiques, parce que vous en avez plusieurs, sont restées ouvertes, hein, pendant la période de confinement. Mais vous avez vu votre chiffre d'affaires baisser de l'ordre de 60%. Aujourd'hui, vous vous demandez surtout, je crois, comment préparer la suite.
Absolument. En fait, à la Meringuée, nous avons, comme tout le monde, bénéficié des PGE, du chômage partiel, pour traverser la tempête. Mais notre problème aujourd'hui, en fait, c'est le développement et son financement. Nous avons prévu d'ouvrir une quatrième boutique à Paris à l'automne et d'investir pour lancer en supermarché notre kit pour faire une pavlova en 5 minutes. 1, 2, 3 pavlova. Et en fait, dans le contexte actuel, le développement est beaucoup plus compliqué à financer, puisqu'en fait, notre trésorerie est quand même très compliquée et les résultats financiers suite au confinement ne permettent pas vraiment, en fait, d'avoir accès à des prêts bancaires classiques. Et du coup, en fait, ma question pour Nathalie, c'est finalement quel mécanisme pourrait être mis en place au niveau de la CCI, de la ville de Paris, de la région, je ne sais pas, pour soutenir en fait le développement de nos entreprises qui sont encore de taille, enfin plutôt petites et qui ont vraiment besoin de ce développement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place une sorte de PGE développement?
Alors Nathalie, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la situation de Marie? Est-ce qu'on oublie, est-ce qu'on diffère le projet ou est-ce qu'au contraire on essaye de mobiliser des fonds pour continuer à penser investissement?
Alors Marie a la chance effectivement d'avoir quand même s'il y a eu un petit souci pendant 2 mois, en tout cas d'avoir une structure stable au niveau financier. Donc c'est pas le moment de s'arrêter. C'est le moment effectivement d'investir. C'est prouvé qu'effectivement pendant ces crises là, plus on améliore ses process tout en investissant, plus on sort plus fort de la crise. Donc elle a raison de vouloir maintenir ses projets. Maintenant effectivement il faut savoir comment on assure le financement de ce développement. Et c'est là que ça se complique un peu.
Oui, alors justement, comment on fait? Est-ce qu'on trouve l'argent de manière classique, si j'ose dire, pour monter le dossier? On va taper à la porte d'une banque ou on cherche d'autres types de financement?
Alors moi je dirais qu'on on va faire différemment parce que on l'a vu sur le PGE, je sais pas comment ça s'est passé pour Marie, mais dans les chambres de commerce on a quand même eu beaucoup de retours de comportements assez classiques du réseau bancaire, c'est-à-dire faire des prévisionnels à 18 mois alors que moi là en ce moment je sais faire un plan de trésorerie avec l'argent qui sort, mais avec l'argent qui rentre c'est moins facile quand même. Donc effectivement ils sont sur des fonctionnements assez classiques, or la situation ne l'est pas. Du coup ce que je pourrais proposer à Marie c'est de mobiliser différemment et d'organiser son plan de financement différemment. Si, pour aller plus loin, ce que je pourrais lui proposer, c'est de dire, vous avez la chance d'avoir, vous l'avez dit, une espèce d'engouement des fans autour de votre boutique, enfin de vos boutiques, un côté très glamour de votre design, etc. Donc vous avez une communauté, vous vendez en ligne, vous avez des clients, des clientes surtout, et il s'avère que les Français, pendant le confinement, ont épargné 55 milliards d'euros.
Donc,
du coup, je me dis...
Crowdfunding.
Et voilà. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas les solliciter, ces clients-là, pour faire un premier socle de financement, alors soit par du don, soit même carrément par de la prise, pourquoi pas de part, parce que se dire, je vais dans ma meringuée dont je suis une toute petite copropriétaire, mais voilà, ça donne envie, puis ça fidélise la clientèle. Donc du coup, ça vous ferait un premier socle de financement qui prouverait aux financeurs plus classiques la solidité de votre business, de votre clientèle. Et puis ensuite, il faudrait surveiller, il y a la mairie de Paris qui a annoncé un plan pour notamment le tourisme. Or, la restauration est dans ce plan tourisme. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est les codes NAF qui seront véritablement derrière ce plan tourisme. Ce qu'on sait, c'est qu'ils essayent que ça soit le plus large possible. Donc, il y a la mairie de Paris qui débloque des fonds pour justement permettre à ces commerces de réinvestir et de continuer à se développer. Donc, on n'a pas les textes encore, hein, mais il faut surveiller ça. Et en troisième plan, il y a l'État avec BPI qui a sorti pareil le plan tourisme. Et donc, il y a BPI qui a fait pareil des financements dédiés à l'investissement pour justement que nos TPE, nos PME n'abandonnent pas leurs projets d'investissement.
Donc, la bonne réponse, c'est une mutualisation effectivement des financements pour qu'il y ait un socle solide et qu'on puisse aller tranquillement taper à la porte d'une banque pour qu'elle amène le complément, si je vous ai bien suivi. Je voudrais voir ce qu'en pense Riyad, notre coach.
Déjà, je partage. Effectivement, le problème, c'est quand vous avez un chiffre d'affaires qui décroît, des investissements pour des nouveaux modes ou des nouvelles solutions sont souvent assez malvenus dans la tête du banquier, parce qu'il se dit bon, déjà le commerce traditionnel est en décroissance et y a une nouvelle idée, il faut financer quelque chose. Donc, ils sont extrêmement méfiants, extrêmement. Et là, vous trouverez uniquement dans du crowdfunding ou de la love money si vous avez besoin d'argent tout de suite. Par contre, moi, je serais plutôt aussi d'avis de renforcer, de remonter, de redonner un peu de santé à votre clientèle existante, celle qui venait vous voir et qui ne vient plus vous voir. Peut-être d'aller la voir là où elle est, je ne sais pas, sur des marchés ou sur des choses comme ça. Mais essayer de remontrer un peu de bonne santé financière sur le business traditionnel, ça permettra de garantir un petit peu ou de donner beaucoup plus confiance à des prêteurs si vous cherchez d'autres fonds pour vous développer sur d'autres activités, quoi.
Marie Stockley.
Pour répondre à Riyad, effectivement, depuis le déconfinement, notre chiffre d'affaires est reparti très fortement. Donc en fait, nos clients sont là, ils nous ont remercié pendant tout le confinement d'avoir été ouverts, mais effectivement, ils n'avaient pas les occasions de se réunir pour déguster une meringuée sur leur table. En fait, c'était plus une question d'usage, en fait, qui faisait que notre chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Mais je remercie aussi Nathalie pour ses conseils. Je pense qu'effectivement, la question du crowdfunding nous avait traversé l'esprit et je pense que c'est une excellente idée et je suis très intéressée par effectivement tout ce que vous évoquiez en fait autour de la mairie de Paris et des PPI sur le plan tourisme, tout ça qui pourrait nous aider à financer notre quatrième magasin serait vraiment extrêmement bienvenu.
Elisabeth, vous aviez une suggestion?
Oui, pourquoi ne pas développer à fond la livraison? Il y a pas mal d'entreprises qui ont repris le travail. Il y a sûrement des anniversaires à fêter. Les gens ont besoin aussi de célébrer des choses. Pourquoi vous n'allez pas, vous orientez pas vers la livraison sur des tailles différentes de vos produits pour pouvoir s'adapter?
Pour Elisabeth, effectivement, nous avons eu un business avec la livraison. On fait de la livraison, en fait, depuis toujours. Et ça a explosé pendant le confinement, effectivement. Donc, vous avez tout à fait raison. C'était un vrai besoin.
Donc, c'est une piste à conserver et à garder pour la suite. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous pouvez continuer à nous écrire, bien sûr. On se donne rendez-vous, Nathalie Elisabeth et Riyad demain entre 13h et 14h pour faire bouger la France ensemble. À demain.